Post-crédit.
Est-ce qu'une mauvaise critique vous a déjà empêché d'aller voir un film ? Ou au contraire, est-ce qu'un film accueilli très froidement par la presse vous a déjà surpris, voire marqué ? Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au studio 231 de l'INA, je suis Bastien Afonso et j'ai le plaisir de vous accueillir dans notre émission Post-crédit, une émission qui s'intéresse à ce qui se passe après la sortie d'un film dans vos salles de cinéma, parce que la vie d'un film ne s'arrête jamais vraiment le jour de sa sortie. À partir de ce moment-là, il continue d'exister, de circuler, d'être discuté, défendu ou parfois rejeté. Entre le marketing, les sorties Blu-ray, les festivals, les plateformes et bien sûr la critique, la vie d'un film ne fait souvent que commencer au moment de sa sortie. Que vous soyez cinéphile aguerri ou simplement curieux de mieux comprendre ce qui se passe autour des films, cette émission est faite pour vous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons nous pencher sur la critique de cinéma et son impact réel ou non sur la perception d'un film. Est-ce qu'une critique peut influencer notre regard avant même d'entrer dans la salle de cinéma ? Est-ce qu'elle peut transformer notre expérience, voire notre jugement après coup ? Nous aurons l'occasion d'en discuter et d'en débattre à travers plusieurs exemples concrets, mais je préfère garder un peu de suspense pour la suite de l'émission. L'objectif, c'est aussi de vous permettre, à vous qui nous écoutez, de prendre du recul sur votre propre rapport à la critique, de comprendre comment elle se construit, à quoi elle sert, et ce qu'elle dit non seulement des films, mais aussi de notre manière de les regarder. Et peut-être au passage, de découvrir plus en profondeur ce métier souvent commenté, parfois critiqué, mais finalement assez mal connu. Pour en parler, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Tom Pessac et de Prisciana Vieira Cavadas. Bonjour à vous deux. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord, Camille Nevers, critique cinéma. Elle a écrit pour plusieurs supports majeurs, notamment Les Cahiers du cinéma et plus récemment Libération. À ses côtés, Pierre Gendrissiak, critique pour la revue Débordement, une revue de critiques reconnue qui a notamment interviewé Jean-Luc Godard le 9 juin 2018. Je laisse Tom se pencher un peu plus sur vos parcours.
Eh bien, pour compléter ta présentation, Bastien, je peux ajouter que Camille Nevers, vous avez également participé pendant 4 ans à l'émission Le Masque et la Plume. Vous êtes aussi réalisatrice scénariste sur deux films, Mystification ou l'histoire des portraits et Cap Nord. Vous êtes par ailleurs engagé au sein du collectif 50-50 qui œuvre pour l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que pour une meilleure représentation des diversités sexuelles et de genre dans le cinéma et l'audiovisuel. Quant à vous, Pierre Gendrissiak, vous êtes enseignant à l'Université de Lille où vous donnez des cours consacrés au cinéma. Vous intervenez aussi dans le cadre de séances de cinéma organisées par l'ADRC, l'Agence pour le développement régional du cinéma.
J'aimerais vous poser une petite première question à tous les deux. Depuis quand êtes-vous critique et est-ce que vous en vivez ? Pierre Gendrissiak, je vous laisse commencer.
Oui, je suis content que la question soit posée, est-ce qu'on en vit, parce que c'est quelque chose dont je voulais parler, puisque la plupart des critiques font pas que ça. Moi, j'écris depuis 5 ou 6 ans à peu près, dans la revue Débordement, où précisément il n'y a pas d'argent, c'est une revue intégralement bénévole, et il se trouve que, ayant écrit beaucoup maintenant à Débordement, je fais des interventions aux salles, parfois aussi j'ai eu l'occasion d'écrire dans d'autres revues où je vais être rémunéré pour des textes, mais voilà, mais effectivement la plupart des critiques font pas que ça, quoi. Alors il y a effectivement... beaucoup de critiques qui, par exemple, ont tout simplement un autre métier. Moi, c'est mon cas, parce que, par exemple, je suis aussi projectionniste, je fais des remplacements, des contrats courts en tant que projectionniste. Il y en a qui travaillent beaucoup dans des festivals aussi, qui vont faire de la programmation dans des festivals, qui vont participer à des comités de sélection, justement, de films. Ce qui, d'ailleurs, sera mon cas bientôt. Enfin, voilà. Donc, 5-6 ans à ne pas faire que ça.
D'accord. Bah, alors, merci pour votre réponse. Et Camille Nevers, j'aimerais aussi... en savoir un peu plus.
Alors, c'est Nevers, comme la ville. C'est un pseudonyme qui me vient d'Alain René, d'Hiroshima, mon amour, Marguerite Duras, où le personnage s'appelle Nevers, mais effectivement, le côté Never joue là-dessus. Et c'est un pseudonyme que j'ai trouvé en faisant de la radio. Quand j'avais 19 ans, il y avait une radio libre qui s'appelle toujours d'ailleurs FG. Et j'ai commencé à faire des chroniques dans une émission de culture qui parlait autant de littérature, de théâtre, de cinéma. J'étais aussi à la fac à Sancy. Et il y avait un cours de Charles Tesson qui était consacré à la critique et apparemment ça plaisait plutôt ce que j'écrivais et j'avais envoyé un texte de fac au Cahier du cinéma qui m'avait rappelé, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des critiques. Je ne sais pas si je suis critique, mais j'écris des critiques et l'idée à l'époque c'était pour faire des films comme toute une école critique des Cahiers du cinéma a fait. Et j'en ai jamais vraiment vécu, j'en ai toujours vivoté. J'ai toujours été pigiste, qui est donc le contraire de salarié, c'est-à-dire qu'on est payé à la pige, à l'article. Ça n'a jamais été beaucoup. Quand on a 20 ans, comme j'avais à l'époque, c'était mirobolant et une chance pas possible d'écrire dans une revue aussi prestigieuse tout en gagnant un peu de sous. Et puis en plus, ça avait la chance de pouvoir faire... avoir accès à plein de petites choses sympathiques comme des festivals, des voyages, des interviews avec des gens. Et puis, Libération, pareil, je suis restée pigiste par choix un petit peu, par goût de la solitude, parce que contrairement à ce que beaucoup disent, pour moi la critique est un exercice solitaire. Pas de bande forcément. Et voilà, j'ai eu une expérience de bande dans une revue qui s'appelait La Lettre du Cinéma, qui était un trimestriel. Et voilà. Et où on n'était pas payé du tout, d'ailleurs. C'était un petit peu comme ça.
Très bien. Donc, maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, j'aimerais commencer cette interview en vous interrogeant sur votre rapport à la critique cinéma. Selon vous, c'est quoi faire une critique cinéma et à quels aspects d'un film prêtez-vous le plus attention lorsque vous écrivez une critique ?
C'est trop large. Non, je... Pendant longtemps, je disais ça, je ne sais même pas si j'y crois encore tant que ça, mais je trouvais, en tout cas, c'est une réponse que j'ai donnée longtemps et qui n'est pas si mauvaise, donc autant que je la répète. C'était que j'aimais bien l'idée que la critique soit une sorte de récit, d'expérience, de ce qui m'est arrivé, en quelque sorte, quand j'ai regardé le film, quoi. À quoi j'ai pensé, qu'est-ce qui m'a le plus marqué, qu'est-ce qui m'a le plus plu, qu'est-ce qui m'a moins plu. Et je pars un peu de cette idée-là. Et j'essaie quand même de garder cette idée que c'est toujours, voilà, la critique, enfin, par définition, c'est quelque chose de, on est au-delà du subjectif, quoi. C'est ce que moi j'ai vu dans le film. C'est ça aussi qui m'intéresse, même quand je lis des critiques d'ailleurs. C'est l'idée que la critique va être un peu, en quelque sorte, presque visionnaire, quoi. D'avoir vu quelque chose dans le film, d'avoir dit, mais il y a ça dans le film qui ne va pas forcément de soi. Une fois qu'on l'a vu, ensuite il faut l'écrire, c'est compliqué. Donc c'est un exercice qui d'abord est, voilà, de vision, ensuite de description, savoir l'écrire et l'écrire bien. Et c'est aussi presque, au moins autant, un exercice stylistique. C'est un métier d'écrivain, quoi. Voilà. Voir quelque chose et savoir le rendre, en quelque sorte.
Et quant à vous, Camille Neuer ?
Alors, c'est un exercice, en fait. C'est un exercice quand, j'imagine, comme tous les critiques, on a commencé à voir des films avant d'écrire à propos d'eux. Et c'est un petit peu, pour moi, comme un aide-mémoire, en fait. C'est-à-dire que quand on voit un film qu'on aime et qui, si on l'aime, vous donne un rapport à la pensée, au monde, aux mots, à la langue, on a pas forcément l'automatisme de prendre des notes ou d'écrire à propos de ce qu'on a vu. Et la critique force à ça, parce que c'est quand même quelque chose, je sais pas, il y a peut-être des gens qui écrivent très vite. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très laborieux, c'est très compliqué. Et donc, c'est un vrai exercice, un vrai travail de rendre au film ce qu'il nous a donné, de reconnaître en lui ce qu'on a reconnu, soit comme référence à des choses qu'on connaissait déjà, soit qu'on n'avait jamais vu, et comme un exercice de reconnaissance, d'éclaireur, etc. Et de se construire un monde comme ça, à partir de quoi on écrit. Moi, j'ai pas vraiment de théorie sur la critique. J'ai beaucoup évolué, je pense, parce que le fait d'écrire à un certain rythme change beaucoup la donne aussi, entre les Cahiers du cinéma qui étaient un mensuel, donc avec un rythme mensuel, un trimestriel comme La Lettre, et un quotidien, même si j'y interviens de façon hebdomadaire dans Libé. C'est plus du tout le même rythme, c'est plus du tout la même façon d'aborder les films, d'autant qu'à l'époque, à mon époque préhistorique, il y avait pas Internet. On était là avec nos disquettes, il fallait aller à la rédaction pour déposer les textes, les revoir, etc. Donc en fait, c'est une sorte de machine à exercer le regard, hein, bêtement. Et donc la mise en scène comme une sorte de préparation à faire des films. Pour moi, c'était ça à l'époque. Là, ça allait un petit peu moins parce que je fais plus beaucoup de films. Enfin, je pense quand même que si je n'avais pas fait de films, des tournées de films, je n'aurais pas la même appréciation de ce que je vois, il me semble. Hein. Parce que comme disait Truffaut, personne, enfant, ne dit plus tard « je veux devenir critique de cinéma ». Il y en a qui le deviennent. Hein. Mais bon, j'évite le côté salarié, bourgeois, assis, et voilà. Donc ça reste quelque chose de l'ordre de l'exercice un petit peu risqué, Voilà. À chaque film, on remet en cause ce qu'on a à dire, à penser. Il n'y a pas de dogme. Je suis contre l'idée qu'il y ait des dogmes et que chaque film remet en cause éventuellement ce qu'on peut en penser.
Ok. Bah, en tout cas, merci pour votre réponse. Avant de poursuivre l'échange, on va faire un petit pas de côté. Parce que pour comprendre la place de la critique aujourd'hui, il faut aussi revenir à ses origines. D'où vient la critique cinéma? Sur quel support s'est-elle développée? A-t-elle toujours été bien perçue par le public et les professionnels? Pour répondre à ces questions et poser les grandes étapes historiques, Prisciana va vous raconter l'histoire de la critique cinéma. C'est à toi, Prisciana.
La chronique. Effectivement, pour bien comprendre l'histoire de la critique cinéma et l'impact qu'elle a de nos jours, il faut remonter à son origine. La critique cinéma est apparue au début du XXe siècle, au moment où se développait le cinéma. En France, elle a été marquée par Émile Wüllermoz, l'un des premiers grands critiques cinéma qu'il a popularisé en 1916, en écrivant une dans le journal appelé Le Temps. Elle a été considérée comme la première critique de cinéma sérieuse en France. Elle s'est développée principalement dans les journaux d'actualité comme Le Monde et Le Figaro, et servait à informer le public et donner un avis sur les films. Cependant, ses critiques restaient peu approfondies. C'est avec son apparition à la radio en 1930 et à la télévision en 1950 que la critique cinéma s'est popularisée, marquée par des noms comme Pierre Tchernia, Jean-Claude Philippe et Philippe Collin, qui ont beaucoup parlé du cinéma dans les émissions télé. Mais surtout, elle est devenue accessible à un public plus large. Par exemple, l'émission culte de France Inter, Le Masque et la Plume, créée en 1955, est maintenant présentée par Rebecca Manzoni, est l'une des plus vieilles émissions françaises et fête d'ailleurs ses 70 ans cette année. Elle est consacrée à la critique culturelle comme le théâtre, la littérature et le cinéma. Ces critiques proviennent de journalistes culturels et de critiques professionnels comme Michel Pollack et Jean-Louis Borry. Les analyses étaient donc argumentées et basées sur leurs connaissances culturelles et leur avis personnel. Et vous vous en doutez bien, l'arrivée des réseaux sociaux a drastiquement fragmenté et démocratisé la critique cinéma et a amplifié son impact sur les spectateurs dans les années 2010. Des plateformes comme TikTok et YouTube permettent la diffusion de multiples critiques et d'avis sur des films par des professionnels, mais également par des amateurs. On peut dire que c'est devenu comme un melting pot d'opinions sur le cinéma. Par des vidéos plus courtes et dynamiques, ces critiques intéressent et impactent un public encore plus large. On peut remarquer d'ailleurs que les personnalités publiques qui font de la critique cinéma sur les réseaux ont beaucoup d'audience. Par exemple, Reguele Gorilla avec 315 000 abonnés, ou même Bazar du Grenier avec 2 millions d'abonnés. Ce phénomène nous donne l'impression que l'avenir d'un film dépend du succès qu'il reçoit auprès des réseaux. Par ailleurs, il est donc possible que cette tendance fasse revivre un film en lui amenant un succès qu'il n'a pas connu à sa sortie. C'est le cas de The Room de Tommy Wilson, sorti en 2003, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ce film a connu une défaite à sa sortie, jugé mal scénarisé et trop étrange par les spectateurs et la critique. Et il a gagné en popularité dans les années 2010 grâce aux réseaux sociaux. Des extraits mémorables du film ont été partagés et commentés sur YouTube et des communautés sur Reddit ont commencé à organiser des projections où le public pouvait interagir avec le film en criant des répliques. Dans ce cas, le film est passé d'échec à succès grâce à sa présence en ligne. La critique cinéma n'a jamais vraiment mis tout le monde d'accord. Elle a souvent été jugée trop sévère ou trop éloignée du public. Pourtant, elle a accompagné l'évolution du cinéma. Aujourd'hui, même si chacun peut donner son avis en ligne et qu'elle peut paraître moins crédible, elle garde une vraie utilité parce qu'au fond, parler et débattre des films, c'est aussi une façon de les faire vivre.
Il y a notamment un fait très marquant dans l'histoire de la critique, c'est l'arrivée des cahiers du cinéma, dont vous avez fait partie, Camille Nevers. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail, Prisciana ?
Effectivement, c'est en 1951 que la critique cinéma a évolué considérablement. Vous avez sûrement déjà entendu parler des cahiers du cinéma. Eh bien, sachez que cette revue française a joué un rôle majeur sur l'évolution de la critique et de la perception du cinéma lui-même. Les cahiers du cinéma, en quelques dates clés, c'est tout d'abord 1951, car c'est l'année de la fondation des cahiers du cinéma par André Bazin, Jacques Doniol Valcroz et Joseph-Marie Leducat. Puis, en 1954, François Truffaut publie « Une certaine tendance du cinéma français ». Dans ce texte, il critique le cinéma où le scénariste domine et instaure l'idée que le réalisateur doit être considéré comme le véritable auteur du film. Cet article pose les bases de ce qu'on appellera plus tard la politique des auteurs, qui changera la manière de regarder et de critiquer un film en faisant plus attention à la réalisation qu'au scénario uniquement. Ce qui nous amène en 1959, où les critiques de cinéma vont passer à leur tour à la réalisation. C'est ce qu'on appelle le mouvement de la nouvelle vague. Des films marquants comme « Les 400 coups » de François Truffaut et « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard vont être créés. Mais il y a également les films d'Agnès Varda, Claude Chabrol et Éric Rohmer qui ont révolutionné le cinéma en apportant plus de liberté et un style plus personnel à la réalisation des films comme « Cléo de 5 à 7 » sorti en 1962. Puis arrive 1968, la revue commence à parler moins de cinéma et plus de politique. Les critiques s'engagent plus à gauche, certains proches du marxisme ou du maoïsme. Et en 1998, Le Monde reprend les cahiers du cinéma. Suite à cela, la revue connaît un tournant éditorial important. Elle revient à la critique plus centrée sur le cinéma, moins politique, et de nouvelles voix et générations de rédacteurs prennent place. Cela permet à la revue de se renouveler et de moderniser son regard sur le cinéma. En clair, les cahiers du cinéma se sont démarqués des autres journaux et ont impacté la vie du cinéma en présentant des principes importants. Premièrement, mettre le réalisateur au centre. Deuxièmement, soutenir les jeunes cinéastes et les films sortant des standards traditionnels français. Enfin et surtout, les cahiers du cinéma vont au-delà de critiquer les films, de dire s'ils sont bons ou mauvais. Ils posent une réelle réflexion sur le cinéma, sur ses techniques et ce qu'il amène à la société.
Eh bien, merci pour cette chronique, Prisciana. J'espère que cette chronique aura réussi à vous aiguiller sur ce métier tout de même trop peu connu aujourd'hui. Tom a sûrement des questions à vous poser, à vous, Pierre Gendrissiak et Camille Nevers, sur cette chronique.
Bah déjà, avant de continuer cette interview, est-ce que vous avez des remarques sur la chronique?
C'est une chronique qui rappelle à peu près à gros traits ce que c'est. Après, bon, il faudrait passer beaucoup plus qu'on a comme temps ici. Les cahiers étant effectivement un moment de la revue de cinéma important dans l'histoire, mais c'est aussi dans l'histoire de la cinéphilie. C'est peut-être un mot qu'on n'a pas encore employé. Et on va peut-être se dire que la critique aujourd'hui dont il est question, TikTok, YouTube, etc., se réclame moins de la cinéphilie que la critique classique, celle dont on parle des cahiers, des émissions, de Masquer la plume, etc. Donc la cinéphilie est moins importante aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai toujours une phrase qui me fait marrer, c'est quand quelqu'un de jeune dit qu'il n'était pas né. Quand on lui parle d'un film qui devient vieux, on ne parle pas de vieux livres ou de vieux tableaux, on parle de vieux films. Alors que la cinéphilie, justement, a toujours été l'idée de regarder en arrière sur des films, la cinémathèque, c'est ça, il faudrait faire des essais partout, cahiers du cinéma, critique, cinémathèque, festival de Cannes, je ne sais pas pourquoi. C'était un ensemble, quoi. Là, peut-être que l'ensemble est très différent, diffracté, comme vous avez dit, et qu'on ne passe plus du tout par les mêmes références, mais c'est vrai que moi, en tout cas, je suis née de la cinéphilie classique, hollywoodienne, des cahiers, mais même, hein, première, moi je disais première quand j'étais môme, ou Télérama, etc., des choses beaucoup plus commune et conventionnelle. Mais voilà, je pense que cette chronique est juste et en même temps, il faudrait parler de la critique. Il y a de très grands critiques qui n'ont pas été cités, qui ont marqué beaucoup. Jean Epstein, effectivement, au cahier, il y en a eu pas mal. Il y a eu aussi des grandes querelles critiques entre Positif et les cahiers du cinéma, qui étaient Positif plus politisé avec Michel Simon qui nous a quittés il y a quelques années, alors que les cahiers étaient les jeunes turcs un petit peu plus mauvais garçons. Et c'était beaucoup de garçons, oui. Ça, vous citez Agnès Varda, mais n'a jamais écrit au cahier, que je sache. Il y avait très peu de femmes. Et j'étais d'ailleurs, en arrivant au cahier en 91, à un moment où plusieurs femmes se sont mises, jeunes femmes à l'époque, rédactrices. Ça aussi, c'est une idée de la cinéphilie, que c'est un club de garçons qui a changé depuis, qui a évolué, que j'ai vu évoluer, hein, d'ailleurs, même si il y a encore beaucoup de résistance et justement de ces instances que je citais tout à l'heure, les cahiers, la cinémathèque, le festival de Cannes, etc., etc., où on voit que le mouvement MeToo n'est pas très bien accueilli par ces messieurs.
Moi, j'aurais une question à vous poser, Pierre Gendrissiak. Concernant la chronique, on a beaucoup parlé des cahiers du cinéma, du coup, et j'ai une question, moi. Est-ce que les cahiers du cinéma vous ont influencé sur votre façon d'écrire vos critiques?
Alors, c'est vrai que quand j'étais, parce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas spécialement une si bonne idée que ça, d'ailleurs, pour être critique de cinéma, c'est-à-dire que moi, j'ai fait des études de cinéma à la fac, et je n'étais pas obligé, vraiment, peut-être même que je déconseillerais, enfin bref. Et quand j'étais étudiant, en cinéma, c'est vrai que je lisais les cahiers de l'époque, donc voilà, c'était les années fin 2010, enfin voilà, les années 2010, je lisais les cahiers. Et ça m'intéressait, mais à vrai dire, moi, le rapport que j'ai eu à la critique de cinéma au cahier, en tout cas, c'était plutôt les cahiers plus anciens. C'est d'avoir lu des ouais, voilà, on dit pas un vieux film, on peut dire des vieilles critiques.
Vieilles revues, cahiers jaunes, voilà. Jaunes parce qu'ils sont vieux.
Les cahiers jaunes du début et puis l'après-cahier jaune. Donc effectivement, moi, évidemment, un critique... celui que j'ai le plus lu, en lisant une œuvre, c'est Serge Danet, qui était rédacteur en chef des Cahiers du cinéma dans les années 70. C'était un peu compliqué, parce que pendant la période maoïste, il n'y avait plus vraiment de rédaction en chef, tout était collectif. Et après, il reprend un peu le bateau, quoi. Et donc, j'ai lu beaucoup, beaucoup d'années, et c'est vraiment pas original, parce que vraiment, le trois quarts, si c'est pas les 4/5 des critiques de cinéma, ont énormément lu Serge Danet, qui a beaucoup, beaucoup marqué, je pense, les critiques de cinéma d'aujourd'hui, en tout cas un certain nombre, quoi. Et puis j'ai lu quand même d'autres gens aussi plutôt de cette histoire des cahiers. Donc oui, j'ai lu les cahiers ces dernières années, on va dire, ça m'arrive encore de les lire, mais ce qui vraiment m'a marqué en tant que critique, je pense, à mon avis plus, c'est l'histoire des cahiers. Et donc à la fois effectivement les vieux textes de la politique des auteurs, que même parfois en tant qu'enseignant j'aime bien faire travailler aux étudiants, moi je trouve ça intéressant de les relire avec un point de vue presque universitaire pour le coup, voilà, les étudier, et puis les avoir lus presque par plaisir. Et moi je dis même, les gens me prennent pour un fou quand je dis ça, c'est une des rares lectures vraiment uniquement de plaisir que j'ai dans ma vie, c'est d'aller lire des vieilles critiques. Quand je lis un roman du 19e siècle, parfois j'ai un peu l'impression de faire mes devoirs. Quand je lis une critique d'un film sorti en 1972, c'est que du plaisir, quoi.
Vous en parliez tout à l'heure de l'évolution de la critique sur des contenus vidéo comme sur TikTok et YouTube. Mais est-ce que vous pensez que la critique papier peut s'exporter sur des contenus vidéo de ce type et garder cette valeur écrite quand même?
Ah ben non, quand c'est écrit, c'est pas parlé. Alors, je connais assez mal. Déjà, je connais assez mal mes collègues critiques en général. Je lis assez peu les autres critiques. Parce que je lis pas assez. Donc, quand je lis autre chose. Sauf quand un film... fait débat. J'ai pas d'idée vraiment sur ce qu'apportent les réseaux en termes de critique. J'ai forcément, comme toutes les personnes qui s'y connaissent pas bien, plutôt des a priori. J'ai l'impression que c'est beaucoup des avis, des opinions, des c'est bien, c'est pas bien, des choses. Enfin, je lis en revanche pas mal de il y a beaucoup d'écritures, hein, il y a beaucoup de sites avec des gens qui écrivent sur les films et les sorties. Ça, je lis un peu. Il y a des gens qui sont doués, d'autres pas du tout. Donc c'est sûr qu'il y a une démocratisation où n'importe qui peut. Il y a des choses très intéressantes, hein, qui se passent et c'est plus l'aristocratie critique des tuyaux habituels. Je sais pas ce que ça apporte de nouveau, c'est ça. C'est-à-dire que autant je vois que comment le mouvement MeToo a apporté quelque chose de neuf dans la manière d'appréhender les films, le cinéma en général, justement de sortir un petit peu de la politique des auteurs et de l'auteur comme grand maître des séances. Autant j'ai, par peut-être ignorance, l'impression que sur les réseaux, il y a une sorte de recréation de ces choses dont on essayait de se débarrasser, que c'est quand même beaucoup des garçons entre eux qui parlent tout seuls. Et bon, alors, je ne sais pas, il y a peut-être des choses très très bien, mais je ne les connais pas. Et il faudrait qu'on me démontre que... Si, il y a un site Microciné Revue, Samir Hadjoum, qui est très bien et qui fait venir plein de gens de tous les horizons, qui fait intervenir des gens de Débordement, de Tsunami, enfin de tous les supports modernes. Mais il reçoit quand même que des hommes qui parlent des heures tout seuls. C'est très bien, mais... qui parle des films et de temps en temps, il reçoit une femme. Alors, il parle parfois des choses actuelles. Hein. Je ne parle pas en tant que militante, je parle en tant que... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour qu'on sorte un petit peu du ronron de la critique. On voit un film, on écrit sur les films et puis tout va bien. Comment est-ce que le discours peut quand même un tout petit peu changer depuis la politique des auteurs qui est quand même... acquise, mais on peut peut-être aussi non pas la dépasser, mais appréhender les auteurs, pas seulement comme le metteur en scène, ça peut être pour moi les actrices, hein, j'ai fait tout un cours là-dessus sur les actrices-autrices, enfin voilà, de faire des pas de côté, de remettre en cause les choses un tout petit peu historiquement admises, et j'ai pas l'impression ou alors vous ne vous tromperez que sur les réseaux YouTube, TikTok, Instagram, il y a beaucoup de ce travail-là, mais peut-être qu'il y a, hein. J'ignore totalement. Mais en tout cas, l'écriture, oui, j'y tiens. Il faut écrire, il faut mettre la pensée noir sur blanc. C'est bien, on s'étonne soi-même parfois de ce qu'on découvre en écrivant sur un film.
Ouais, c'est... Effectivement, bon, là, je vais défendre ma paroisse. C'est vrai que, quelque part, on se dit d'ailleurs parfois à Débordement qu'on est un peu dans un espèce d'entre-deux, parce qu'on n'est que sur Internet. Il y a des numéros papier de Débordement qui ont été faits il y a plusieurs années. Là, c'est plus le cas. Peut-être qu'un jour, il y aura à nouveau des publications. En tout cas, il y en a eu deux et on verra pour la suite un jour, peut-être. Mais donc, on est sur Internet, on n'est que en ligne, et en même temps, on écrit. Et parfois, les textes très longs, et on publie beaucoup quand même, tous les mercredis, n'est-ce pas ? On est un peu dans un entre-deux. C'est qu'à la fois, c'est de la critique en ligne, mais c'est pas audiovisuel, réseaux sociaux, etc. Même notre présence sur les réseaux, d'ailleurs, est assez modeste, en fait. Tout ce qu'on fait, c'est partager ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux. Enfin, très rarement, on fait parfois quelques trucs, mais c'est tout, quoi. Et par ailleurs, je connais pas très très bien... Je connais un petit peu, peut-être mieux, je connais quand même quelques noms. Il y a Régel Goria qui a été cité, oui, je vois très bien de qui il s'agit. Je pense quand même que beaucoup de ces gens-là, justement... Et ce serait même pas forcément un problème. Est-ce que, par exemple, Régel Goria, je pense pas que c'est un critique de cinéma. Je pense que c'est un influenceur, et moi j'aime bien les influenceurs en fait, il y en a que j'adore. Hein. Et il se trouve qu'il parle de cinéma, et c'est intéressant, et parfois ça, lui, enfin voilà, parfois ça va m'intéresser, quoi, voilà. Mais je pense pas que ce soit vraiment un critique. Ça existe, la critique, sous ces formes-là, mais c'est quelque chose, en fait, il y en a finalement pas tant que ça, peut-être, parce que la critique est peut-être condamnée à être un petit peu minoritaire, quand même, surtout aujourd'hui. Une auxquelles je pense, c'est la chaîne YouTube Cinéma et Politique, qui, alors justement, plus fait par une femme avec un angle féministe. Parfois j'ai des réserves, mais par contre c'est, voilà, ça c'est vraiment de la critique, et c'est sous forme vidéo, et c'est en ligne, quoi. Là effectivement il y a quelque chose de l'idée de profiter du nouveau média pour aussi dire quelque chose de nouveau. Après c'est vrai que ça reste un milieu, disons que ce renouvellement en ligne n'a pas que signifié un renouvellement de tout, comme ce qui était juste avant, comme ce que tu disais, aussi c'est rester des garçons, quoi, voilà. Débordement, même Débordement, nous, on essaie de faire de notre mieux, mais la rédaction, en termes de composition, elle reste majoritairement masculine, par exemple, même s'il y a plusieurs femmes dans le comité de rédaction.
Christiana, tu as une question à poser particulière ?
C'est juste pour revenir sur ce que vous avez dit. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça, justement, j'avais précisé que sur les réseaux, il n'y avait pas forcément que des professionnels, des critiques de cinéma, c'était aussi des amateurs. Et c'est pour ça que ça devenait un peu comme un melting pot d'opinions, en fait. Et qu'il y avait beaucoup de personnes en ligne qui donnaient leur avis sans forcément être professionnelles dans le domaine.
Moi, je ne me considère pas comme professionnelle. Hein. Je ne gagne pas ma vie avec, je n'ai jamais gagné ma vie avec. Disons, j'ai de la bouteille. Pierre est nettement plus jeune, je ne sais pas s'il se considère comme un critique officiel. Mais qui décide qu'on est professionnel de la profession ? Pas moi. Je n'appartiens pas au syndicat de la critique. Je ne sais pas. Et je pense que à 20 ans, les personnes qui sont sur YouTube aujourd'hui, qui ont cet âge-là, il faudrait comparer, quoi. Mais je sais pas, quand même, je suis un petit peu exigeante sur l'idée qu'il faut connaître un tout petit peu le cinéma pour en parler. Que c'est pas. Alors, à la fois, je suis très contente qu'on puisse parler de cinéma quand on n'y connaît rien, contrairement à la peinture, à la musique classique ou à la littérature, où personne ne se permettrait de dire. Ça c'est bien, Balzac c'est de la merde, Mozart c'est génial, mais Beethoven non. Au cinéma, ça reste encore un truc populaire où les gens peuvent se permettre de dire tout et n'importe quoi, sans trop connaître les trucs, sans avoir trop travaillé. Bon, c'est un peu comme les réseaux en général, quoi. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Et en effet, comme dit Pierre, je pense que le côté influenceur n'est pas critique. Enfin... Moi, je ne pense pas avoir influencé grand monde pour aller voir un film dans ma vie. Je ne pense pas attirer... Enfin, la critique a eu une fonction, paraît-il, puisque Pierre parlait de Serge Danet. La critique a eu une fonction pour attirer les spectateurs dans les salles. Il disait qu'ils avaient à l'époque une influence et qu'un film pouvait marcher juste sur une bonne critique. Ça n'est plus le cas, que je sache. Peut-être qu'aujourd'hui, les influenceurs font un succès en salle. En tout cas, je sais que les sociétés de production, les majors et tout, les cherchent beaucoup pour avoir de la pub gratos par leur biais. Donc ça, c'est tout un problème de machine capitaliste, comment ça marche et de quoi on fait la pub et à quoi on se... Voilà, c'est des histoires de morale et d'éthique. La critique étant quand même à la base l'idée de mettre en crise quelque chose. Donc si c'est juste pour servir la soupe au gros film, voilà, il ne faut surtout pas suivre pour avoir le maximum de millions de followers. Ce n'est pas le but.
Et puis je voulais aussi rajouter quelque chose sur ce sujet-là. C'est que je pense que cette espèce de fragmentation qui a été créée par l'Internet et surtout les réseaux sociaux... Je pense pas que ça a... Comment dire? Je pense qu'être critique, ça... Il y a tout ce paradoxe où les critiques, c'est quand même quelque chose de séparé. En même temps, on demande aux critiques s'ils sont critiques. Souvent, ils ont des espèces de... Y compris moi, c'est vrai que c'est une de mes activités. Je fais de la critique, mais est-ce que je suis un critique de cinéma? Point. Il y a une carte de critique, d'ailleurs, mais la moitié des critiques ne l'ont pas. Donc voilà, je suis pas sûr. C'est comme les journalistes, d'ailleurs. Je veux dire, c'est connu que la phrase la plus souvent prononcée par les journalistes, c'est « Mais moi, j'ai pas fait d'école de journalisme. » Mais ils disent quand même journaliste. Mais la critique, c'est un peu la même chose, dans le sens où il y a ce statut un peu bizarre, quoi. On l'est pas vraiment, on n'est jamais que ça, et puis on sait pas trop, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que cette multiplicité des témoignages sur les réseaux sociaux, sur les applications qui sont dédiées à ça, notamment évidemment, pour ne pas la citer, Letterboxd, ne détruit pas la différence entre simple spectateur qui justement donne son avis et critique qui écrit. Et sur Letterboxd, il y a parfois des situations, c'est pas parce que la différence est parfois un peu floue, mais elle existe encore. C'est « I know it when I see it », comme on dit. Et il y a sur Letterboxd des gens qui sont des critiques et qui montrent des choses qui sont un peu en dehors de la critique. Il y en a qui sont des simples spectateurs, etc. Enfin, ça a plus ouvert la possibilité d'écrire des critiques, mais je ne pense pas que ça ait du tout rompu cette différence-là.
Vous parliez justement de Letterboxd, c'était une de mes prochaines questions. On voit beaucoup de personnes arriver sur Letterboxd, qui est très populaire en ce moment. Tout l'afflux de critiques et de notes, parce que donc ça marche en notes sur Letterboxd, est-ce que ça pourrait changer ces critiques-là, la vision qu'on a d'un film? Par exemple, donc en fin d'année, il y a un récap des meilleurs films de l'année, entre guillemets, et celui qui arrive en tête, c'est Chainsaw Man, le film, qui est un film adapté d'un manga et pas vraiment un film de cinéma original. Donc est-ce qu'on peut se dire que les critiques sont biaisées par le nombre de fans juste pour surnoter le film plutôt que de réelles critiques, quoi? Est-ce que ça peut vraiment avoir une influence sur le film?
Comment dire, effectivement, comme les réseaux sociaux, quoi. C'est-à-dire, effectivement, ça change le rapport que les spectateurs ils ont au film. Voilà, ça va aider, mais comme ça va relever quasiment de l'influence, quoi, des réseaux sociaux, de l'influence, etc. Après, je pense que ça reste modeste, en fait. C'est-à-dire que je pense pas, par exemple, qu'effectivement, le succès qui est certain en salle des films adaptés de manga, etc., qui est effectivement un phénomène assez particulier. C'est intéressant, d'ailleurs, que les critiques n'en parlent pas du tout, alors que c'est des films qui font parfois, qui en plus ont des distributions très bizarres, et qui sortent parfois sur une seule journée. Aucun critique n'en parle, ou alors sous des formes quasiment du reportage de « j'y suis allé » et les gens, il n'y avait que des jeunes de 12 à 18 ans, ils étaient très contents d'être là, mais en fait, voilà, les critiques n'en parlent pas. Donc, voilà, effectivement, il y a une nouvelle particularité, quoi. Après, est-ce que Letterboxd joue un rôle différent d'autres plateformes qui ont précédemment existé? C'est juste le média du moment, quoi. Comme quand la télévision est arrivée, elle a un peu changé les habitudes, les rapports que les gens avaient au film. Mais justement, je pense que c'est pas de la critique, quoi. Je pense que c'est autre chose. C'est pas pour garder la critique, une espèce de chasse gardée de puristes, quoi. C'est juste que c'est pas la même chose, quoi. Tout comme un article de journal peut être hyper important, mais c'est pas un roman et c'est juste pas la même chose.
Vous avez quelque chose à dire par rapport à ça?
Je ne suis pas sur Letterboxd, j'en entends beaucoup parler, mais je fais déjà assez avec Facebook et Instagram, où je publie parfois des choses qui ne sont pas dans l'IB, hein. Je prends des notes et ça permet justement de dire « je ». Alors je ne sais pas comment ça se passe sur Letterboxd, et le fait de pouvoir dire « je », alors que dans la critique c'est plutôt mal vu. Enfin, l'IB, il vire, hein. Dès qu'on dit « je », c'est ou « on » ou « nous ». Donc c'est une façon de prendre la parole qui n'est pas du tout la même. On m'a parlé de Letterboxd, mais c'est vrai que ça... Pour moi, c'est du boulot. Maintenant, voir des films, c'est presque du boulot. Donc, quand j'arrête, je vois plutôt d'autres trucs. En revanche, il paraît qu'il y a des no, des critiques qui n'y sont pas, mais il y a des sortes de fans qui... Il y a un no Camille Nevers, il paraît, sur Letterboxd. C'est au Brésil, je crois que j'ai des fans au Brésil, donc ils traduisent en portugais. Donc je pense que c'est comme les réseaux, là, pour le coup, ça doit donner beaucoup d'émulation, de sentiment d'appartenance, de partage, de... Oui, c'est le propre de la cinéphilie, là, pour le coup, c'est de parler, de s'engueuler, de donner des notes, des listes, des tops, des machins. Ça, c'est tout le fétichisme du truc. Et puis, moi, j'ai vraiment zéro tabou avec l'idée qu'il y a des critiques peut-être sur Letterboxd qui sont très bien et qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai eu la chance d'être prise au cahier parce que j'avais envoyé c'était un papier de fac, mais il y a certainement plein de critiques en herbe qui n'ont pas la chance d'avoir accès à des revues officielles comme ça. Donc là, pour le coup, comme tu disais au début, la critique, c'est une sorte d'écriture, c'est une forme de littérature. Il y a des très grands écrivains qui ont écrit des critiques, Baudelaire, Diderot, etc. Donc, c'est un exercice, on le juge hostile, hein, à un moment donné, à la pensée, hostile, à la force, pas forcément à la force de conviction, mais à une forme de... Moi, je ne sais pas, je sais qu'à un moment donné, quand il y avait des cinémas en salle seulement, et pas en plateforme, et pas comme aujourd'hui, où tout est plus facile, et j'en suis fort heureuse d'ailleurs, pour avoir accès aux films, mais où les gens dans les provinces, etc., n'avaient pas accès aux films, et lisaient les critiques de films qu'ils ne voyaient pas, puisqu'ils n'avaient pas accès aux salles. Donc ça, c'était aussi une fonction de lien. Et on n'a pas cité André Bazin, qui est un énorme critique. Moi, je suis une basinienne de base. Hein, donc si vous avez un livre à lire, je vous conseille Qu'est-ce que le cinéma, qui est un recueil d'articles d'André Bazin, qui a donc fondé les cahiers, mais qui est mort très très jeune, juste avant la Nouvelle Vague, et qui lui n'a jamais réalisé. Mais lui, c'était vraiment le cateau de gauche. Et je pense qu'il avait dans l'idée... que le cinéma était une façon de religion, de relier les gens, qu'il fallait faire des ciné-clubs, il fallait occuper le territoire culturellement, les MJC, etc. Et ça, je ne sais pas si les réseaux font ce boulot de territorialiser un peu les goûts, la pop culture, la culture plus intellectuelle, et de mélanger... Moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est de pouvoir mélanger Spielberg et Duras, quoi. C'est de pouvoir aimer quelque chose de très blockbuster, et à côté de ça, d'aller voir un film de Chantal Akerman ou je sais pas, ou un film gore, enfin vraiment, de, que ce soit, puisque ça a été, je crois, Bazin qui l'a employé le premier, un art impur. Voilà, qu'on reste avec l'impureté, de pas être dans un truc de mode pur, d'être aussi dans quelque chose de sérieux, de poser son stylo et de penser avec le cinéma. Un film, c'est de la pensée, autant qu'un livre. Et que n'importe quel art, mais impur, donc avec quelque chose qui doit continuer à innerver dans les plateformes, dans les réseaux, dans les Letterboxd. Enfin, je ne sais pas ce que ça crée, pourvu que ça ne crée pas que des petits effets de pub de soi-même. Voilà.
Bah, je me permets de vous couper ici et de marquer un temps de pause dans cette émission pour vous parler d'un film. Ce film, c'est Eternity and the Day par Theo Angelopoulos. Je ne sais pas si vous le connaissez ou si vous l'avez vu tous les deux. Ce film, pour le coup, il est plutôt apprécié de la presse et du public. Peut-être que cette œuvre, vous l'appréciez ou pas du tout. Vous la trouvez peut-être surestimée ou sous-estimée. Mais une chose met tout le monde d'accord, c'est sa bande originale magnifique qui rajoute une touche particulière à ce film. Elle est composée par Eleni Karindrou. Et on vous laisse écouter The Eternity Time. On revient dans approximativement 2 minutes. À tout de suite.
Thank you.
Retour au studio 231 de l'INA dans l'émission Post-Credit. C'était The Eternity Time par Karin Drou. On remercie ECM Records d'avoir accepté qu'on passe cette musique dans notre émission. On a pris le temps de se rendre au cinéma Le Bijou à Noisy-le-Grand pour confronter des personnes au hasard au cinéma directement et ainsi avoir un avis authentique concernant la critique presse et la critique spectateur. À qui fait-on le plus confiance? Quel est le réel impact de la critique presse? On vous montre cela tout de suite.
Le reportage extérieur.
Nous sommes bien arrivés au cinéma Le Bijou. Ici, nous allons interviewer des personnes allant au cinéma et nous allons essayer d'avoir leur point de vue sur les critiques. On vous amène avec nous. Alors, j'aimerais savoir tout simplement comment vous vous appelez.
Gisèle Azo.
Je m'appelle Pascal.
Nadine Cossé.
Est-ce que vous avez l'habitude de regarder beaucoup de films?
Oui, ça nous arrive, oui.
Oui, je regarde, pas mal.
Je suis une cinéphile.
Vous faites plus confiance à la critique spectateur ou à la critique presse?
Presse. Par rapport à ce que les gens pensent, je ne suis pas forcément d'accord. Donc, je préfère... Je suis plus fiable avec la presse.
Bah écoutez, dans notre entourage, j'ai notamment mon fils qui va assez régulièrement, donc j'aime bien voir son retour. Puis après, il y a quelques critiques, effectivement, que j'écoute, comme Le Masque et la Plume sur France Inter, par exemple.
Je regarde souvent les critiques sur Télérama.
Quand vous voyez des critiques négatives, est-ce que cela peut vous empêcher de voir le film?
Tout dépend du sujet. Il y a un film comme Chuck Life que j'avais vu. Toutes les critiques étaient à 4 étoiles. Moi, j'ai mis une étoile. Donc, ça ne veut rien dire. En fait, tout dépend du sujet.
Oui, c'est possible. Des fois, je vais regarder les critiques par rapport à un film que j'ai vu pour voir si, effectivement, ça correspond à ce que je pense. Après, je ne me fie pas vraiment aux critiques. Hein.
Vous pourriez aller voir un film même si la presse ne note pas très bien le film?
Oui, parce que j'aime bien le réalisateur, j'aime bien les acteurs, etc. Donc,
Ça m'empêche rarement, mais ça peut un peu... si j'ai le choix entre deux, je vais peut-être aller voir celui qui a une meilleure critique, ça arrive, ouais. Ouais.
Vous trouvez quand même que les critiques presse sont légitimes?
Sont plus crédibles.
Imaginons que la critique spectateur, elle est haute, mais que la critique presse, elle est basse. Est-ce que ça pourrait vous empêcher de voir le film?
Non, non, non. Non, ça peut pas m'empêcher, c'est pas à ce point-là. Non, non.
Bah merci pour vos réponses.
Je vous en prie.
Merci. Donc, vous avez pu voir à travers ce reportage différents avis de personnes interviewées au hasard concernant la critique presse et la critique spectateur. Moi, j'aurais une question à vous poser par rapport à ce reportage. Vous pensez que la critique spectateur, elle est beaucoup moins légitime que la critique presse? Ou alors, vous pensez que tout le monde... a son mot à dire sur chaque film?
Bah, ce que moi je suis assez d'accord avec ce que disait Camille plus tôt, c'est que le cinéma c'est le tout venant, c'est pour tout le monde quoi. Et j'ai même envie de dire, même parfois des films à réessayer, ils sont un film à réessayer qui fait très peu d'entrées en France, c'est-à-dire qui en fait 20 000 ou 30 000, en fait c'est beaucoup plus que les ventes d'un roman qui marche parfois moyennement quoi. Donc en fait même le cinéma à réessayer est plus populaire que certaines disciplines, et je parle même pas du cinéma qui n'est pas à réessayer, je parle même pas de voilà, il y a Spielberg qui a été nommé et voilà, et des cinéastes c'est un peu une invention d'ailleurs de la, c'est une trouvaille des cahiers du cinéma quoi, d'avoir dit Alfred Hitchcock, Howard Hawks, en fait c'est aussi beau que non seulement que les cinéastes à réessayer sérieux, mais c'est aussi beau que Dostoïevski et Rembrandt quoi. Donc moi je fais pas la distinction et je pense que c'est bien que tout le monde ait un avis. Truffaut là-dessus, on aura beaucoup de cités aujourd'hui, mais Truffaut avait une belle phrase là-dessus, dès que tous les Français avaient deux métiers, le leur et critique de cinéma. Et je pense que non seulement il avait raison, mais qu'en plus je pense que c'est très bien, que tout le monde ait un avis sur tous les films qu'il voit. D'ailleurs tout le monde a un avis sur tout. Mais c'est pas du coup que je trouve ça moins légitime, c'est pas que je trouve ça moins bien, c'est que je pense qu'effectivement c'est pas la même chose que... La critique ne serait-ce que parce que voilà, c'est un exercice écrit, réfléchi, et c'est différent d'autres choses, quoi. Donc, non, moi je trouve... Et moi-même, ça m'intéresse d'avoir... je suis toujours curieux, quoi. Et puisqu'en plus, même cette idée qu'il y a une critique presse, moi, une critique spectateur, je veux dire, moi je sais pas ce que ça veut dire, parce que chaque personne va avoir un avis différent. Et je pense qu'encore moins aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu une époque où il y avait une espèce de... comme s'il y avait une critique gazeuse qui flottait au-dessus des villes et qui avait un avis un peu moyen des films. Mais aujourd'hui, je crois que ça n'existe plus du tout, si ça a seulement existé, ce dont je ne suis pas sûr. Et qu'en fait, il y a des films qui seront adorés par beaucoup de spectateurs et un autre spectateur qui est ni plus malin ni plus bête ne va pas l'aimer, ou le contraire. Enfin voilà, quoi. Il y a justement une multiplicité. La différence avec le critique qui écrit une critique, c'est que justement, il l'écrit, quoi. Et puis, il fait cet exercice stylistique, etc.
J'ai noté que dans votre reportage, si je ne dis pas de bêtises à Louis, ce ne sont que des spectateurs d'un certain âge, comme on dit, ce n'est pas des jeunes gens qu'on entendait.
Mais franchement, c'était vraiment du hasard, on a pris des personnes qu'on a...
C'est une vérité que dans les salles de cinéma, il y a plutôt des gens âgés de nos jours, et les jeunes gens, moins, quoi. Enfin, je ne sais pas, c'est n'importe qui fait l'expérience, c'est le cas. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est, quand ils citent Le Masque et la Plume et Télérama, c'est en effet, on en parlait, deux supports qui ont encore une influence. Pour moi, c'est très... très identifié depuis que je suis môme. Voilà, Le Masque et la Plume, c'est les nantis de la critique du cinéma, des gens qui sont très populaires, très écoutés. C'est une émission ou une revue ou un magazine qui est moi-même, hein, que j'ai lu. Le Masque et la Plume, je l'écoutais toujours pour me mettre en colère parce que ça m'énervait. Mais Le Télérama, j'ai lu même pour me mettre en colère. Mais ça, c'est bien aussi. Hein, ça, on oublie de le dire. Mais les critiques sont aussi là pour qu'on ne soit pas d'accord avec eux. Et je peux très bien admirer parfois certains textes qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que je pense du film. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, je pense que, par exemple, sur Allociné, entre les critiques presse et les critiques spectateurs, moi, j'ai tendance plutôt à d'abord aller faire un tour sur les critiques presse, voir un peu ce que les autres en ont écrit. Et après, sur les critiques spectateurs, qui sont toujours un petit peu plus relâchés, parfois, il y en a qui font ça très sérieusement. Parfois, je suis très d'accord avec ce que certains disent, beaucoup plus qu'avec la presse, qui a, elle aussi, beaucoup de little darlings, de tics d'écriture, de langage. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des critiques qui sont des bons critiques. Hein. Il y a aussi beaucoup de mauvais critiques. Donc, je sais pas, si on avait interrogé des jeunes, je pense pas qu'ils auraient cité Le Masque et la Plume, ni Télérama. Ils auraient dit, oui, un mec sur YouTube, sur TikTok, ou je sais pas, une affiche dans le métro, je sais pas, qu'est-ce qui influence à aller voir un film, ce qu'on a longtemps appelé le bouche à oreille. Je sais pas si ça continue via les réseaux sociaux, je sais pas comment, s'il y a un vrai effet d'émulation, mais en tout cas il y a moins de gens en salle, ce qui fait aussi qu'il faut aussi se poser la question du cinéma en tant que salle de cinéma, puisque là vous êtes allé à la sortie, mais bon, il faudrait presque aller dans les chambres à coucher, demander aux jeunes gens alors qu'est-ce qui vous a donné envie de télécharger ce film en VOD, de lancer Netflix, etc. Parce que on est moins dans les salles, ce qui pose aussi une question de l'écran, des écrans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur Facebook, j'avais écrit un truc du style, en fait, la grande invention, c'était pas le cinéma, c'était l'écran. Et donc, on peut imaginer que quand il n'y aura plus de cinéma, il y aura encore des écrans. Enfin, en tout cas, que le cinéma peut muter vers quelque chose de différent, qui sera très intéressant d'ailleurs, mais qu'en tout cas, on ne regardera pas ça forcément dans les salles, ou alors les salles de cinéma deviendront comme un petit peu le théâtre, ce truc un peu en bourgeoisie de la grande cérémonie culturelle. Voilà, je pense qu'en effet, tout bouge beaucoup très vite. Et si je crois à un truc dans la critique que je répète parfois, c'est que j'écris beaucoup avec l'idée que si on, je reviens là-dessus, si on ne peut pas avoir accès au film, ce que j'écris sera la trace de ce que j'aurais vu du film. Et qu'on peut imaginer qu'un jour, il y a une bombe qui explose et tous les films disparaissent, comme longtemps. Hein, au début du cinéma, les films disparaissaient, c'était des films flammes, ils disparaissaient... Dans le feu et dans le vieillissement des pellicules, et ben, qu'il y a une trace textuelle, ça, ça me plaît bien, l'idée qu'il restera, même quand il n'y aura plus la fiction, le film hollywoodien ou le film d'auteur, il y aura des textes qui auront écrit et qui auront la qualité de pouvoir rendre compte, je pense beaucoup à la critique comme l'idée de rendre compte de ce que quelqu'un aura vu et de ce qui aura été montré par quelques-uns, collectivement, sur un tournage.
Donc, très rapidement, j'ai posé une question, car le temps nous rattrape. Mais pour vous, est-ce que la critique, elle peut, entre guillemets, enterrer ou bien sauver la vie d'un film ?
Moi, je pense plus aujourd'hui. Et même, j'ai envie de dire, je pense qu'aujourd'hui, il y a un truc qui existe de moins en moins, c'est la critique négative, quand même. Je pense qu'il y a de moins en moins de textes négatifs, en colère. Ça a été un grand truc de la critique, c'était de s'emporter. Parfois, ça devenait presque un automatisme, d'ailleurs. Mais ça n'existe quasiment plus. Et je pense même aujourd'hui, j'en suis à me dire, Ce qui sauverait peut-être la critique et le côté prescriptif de la critique, du fait que ça va faire que des gens vont le voir, ce serait presque un texte négatif aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un encore aujourd'hui arrive à s'emporter contre un film, ce serait presque rassurant et peut-être que ça lui garantirait son succès paradoxalement. Parce que les gens se diraient, qu'est-ce qui a bien pu motiver cette chose qui n'existe plus vraiment, c'est-à-dire de s'énerver contre un film. Donc je dis ça à moitié ironiquement bien sûr, pour dire qu'à mon avis, ce rôle prescriptif, il a un peu existé, en effet, il a un peu existé. Toujours beaucoup plus modestement, la force de frappe d'une demi-page dans Le Monde ou dans Libération ou de quelques minutes sur France Inter sera toujours mille fois moins grande que des affiches géantes absolument partout dans toutes les rues. Et c'est ça quand même qui fait que les gens vont voir des films majoritairement. Si les films de Spielberg sont les films les plus vus, c'est peut-être d'abord parce que c'est ceux où il y a le plus d'affiches partout dans les rues trois mois avant qu'ils sortent.
Oui, le bad buzz est aussi un good buzz aujourd'hui. Mais la critique, je ne sais pas, vous avez sans doute oublié. Il y a eu un film de Jacques Demy, Une chambre en ville, qui a été un four total à sa sortie. Je n'ai pas la date, je suis un peu fâchée avec les dates. Et la critique, là, pour le coup, c'est d'un seul homme ou d'une seule femme. À l'époque, c'était d'un seul homme. Révolté contre l'idée que ce film, par ailleurs très beau de Jacques Demy, fasse un four total. Donc là, il y a eu quelque chose comme un mouvement encore, c'était peut-être un agonisant de la critique qui se mobilisait pour soutenir un film, etc. Après, on se souvient par exemple par rapport à Danet, que Danet qui fait une critique mauvaise de Uranus de Claude Berry dans Libé, après se prend un procès, enfin Claude Berry le menace de procès, l'engueule, etc. Enfin, Georges Acanaud sur... Voilà, il y a des gens qui continuent de s'énerver. Moi, je reçois encore de quelques cinéastes qui envoient des messages pas contents parce que j'ai pas aimé leur film, mais le contraire aussi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'impact de la critique, sinon une connivence. Voilà, c'est mon problème. C'est pour ça que je dis que c'est devenu un truc très solitaire. C'est-à-dire que parfois, je lis des critiques, j'ai l'impression qu'ils se sont mis d'accord pour penser la même chose du film. Et ils se connaissent sans doute beaucoup et qu'il y a une connivence qui fait qu'on a l'impression qu'on... On est face à une sorte d'avis tiède, commun. Enfin, voilà. Ça produit pas grand-chose, je trouve.
Ok. Bah, franchement, c'est très intéressant ce que vous nous racontez tous les deux. C'est un plaisir de vous avoir invité aujourd'hui. Mais malheureusement, notre émission arrive à son terme. Donc, c'était une très belle émission et j'espère qu'elle vous a plu, le public comme vous, nos invités. Merci à vous, nos auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à notre équipe. Tom Pessac, Prisciana Vieira-Cavadas. On n'oublie pas notre équipe son. Merci à Agnès Pied, Paul Valincel, Achille Fermont. Merci à vous, Pierre Genrissiac et Camille Nevers, d'avoir pu être présents, malgré peut-être la distance. Je sais que vous, Pierre, ça n'a pas dû être facile, étant donné que vous venez de Lille.
Ça va.
Merci à SM Records pour les droits de trois musiques de leur catalogue, By the Sea, Eternity Theme et Ulysse Gaze. En bref, merci à tous.
Merci.
On se retrouve dans quelques instants pour l'interview. À tout de suite.